With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et pour ceux qui nous écoutent uniquement en podcast, et c'est bien dommage aujourd'hui, car Maxime a mis la chemise et il a mis une chemise.
Alors là, vous penserez à moi très fort, vous réécouterez le début et vous vous rendrez compte comment il vient de vous péter les oreilles en hurlant parce que j'ai mis une chemise.
Bah, oui, j'ai mis une chemise. Alors déjà,
c'est lundi
et alors il ne l'aimait pas du tout, il ne l'a absolument pas mise pour ceux qui regardent les vidéos sur Eurosport du FC Stream Team, car je rappelle au passage que vous pouvez retrouver toutes les meilleures vidéos mises en ligne, coupées, démontées par Sébastien Petit. Non, il ne les a pas mises pour vous qui regardez les vidéos, mais parce qu'après monsieur a un tournage, m'a-t-il expliqué. Ouais, j'ai un petit tournage, donc en gros il se fout de nous. Alors, il vient en pyjama dans le FC Stream Team, mais dès qu'il a autre chose, alors là, monsieur boutonne sa chemise.
Non, mais rien à voir. Est-ce que tu savais que Seb Petit était un fan de la série Premier Baiser ?
Mais moi aussi.
Oui.
Mais moi aussi, ça... Justine, bah bien sûr, mais moi aussi. Mais Premier baiser. Premier baiser, échangé sur une plage en été. Premier amour,
je sais pas,
un beau
qui chantait ça ? Hélène, non ?
Emmanuel. Je sais pas. Et Guillaume Canet a démarré dans Premier Baiser.
Bah alors là, tu vois, je ne savais pas.
Ouais, t'es pas le seul, je crois. Mais Premier Baiser, très beau sitcom.
Voilà.
Sous-estimé. Mais on est un peu passé vite sur ta chemise. T'as... Mais c'est bien parce que t'as concentré l'attention ailleurs.
Ça, c'est un talent. Hein.
C'est un talent, mais voilà.
Non, mais
moi, je prends ça comme un peu un manque de respect vis-à-vis de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Car d'habitude, tu viens fringuer. Mais enfin, voilà.
On est lundi.
Ouais, on est là.
C'est lundi, c'est la chemise et ça se dégrade au fur et à mesure de la semaine.
Ah ouais, mais ouais, bah dès le mardi, j'ai l'impression, parce que généralement, on n'a pas le droit à autant d'égards. Mais bon, bref, on va quand même parler un petit peu de l'équipe de France
Si on agit plus sain. Alors, pour tout à fait honnête, il n'y a pas eu de conférence de presse aussi aujourd'hui des Bleus.
Non.
Donc, c'est une émission quand même qui, qui va se baser que sur notre parole. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, on va essayer d'être au niveau
de
ce jour de repos. On est entre deux. Il va falloir attendre jusqu'à samedi pour ce quart de finale que. Bah, tout le monde attend finalement face aux Anglais, c'est une première à cette hauteur-là de la compétition, ça donne très envie parce que c'est un duel qui a du sel et on va se poser plusieurs questions autour de ce match-là. La première, Martin, c'est de savoir si Didier Deschamps a intérêt à partir à la guerre face aux Anglais avec le 11 de départ qu'il a installé, on va dire, depuis le Danemark tout simplement, sans compter la Tunisie.
Ensuite, on parlera de l'Angleterre et on essaiera d'identifier la plus grande des menaces pour l'équipe de France, où est-ce qu'elle se situe sur le terrain ou peut-être même ailleurs.
Et on parlera enfin de Hugo Lloris qui a égalé Lilian Thuram dimanche, 142e sélection. Et Hugo Lloris qui a quand même un peu inquiété. Alors évidemment, il y a eu cet arrêt sur lequel on reviendra en fin d'émission. Mais bon, il y a des petites inquiétudes, notamment sur un jeu au pied qui est très 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 défaillant, ce qui est très embêtant dans le football actuel.
J'ai envie de laisser un petit silence parce que là, tu as été grandiose, Maxime.
C'est la chemise.
Ouais, c'est la chemise. On voit quand même que la chemise installe les hommes.
Mais tu sais que, mais on dit que l'habit ne fait pas le moine.
Oui. Mais là, je suis sûr que même le podcast,
ça
ceux qui nous écoutent, ils entendent que tu as une chemise, Maxime.
Ils entendent la chemise.
Ben oui.
Ils entendent le cri du bouton.
Parce que d'habitude, c'est décontracté, c'est en vieux t-shirt de rock anglais des années 80, voilà. Et là, c'est la chemise, ça t'installe. Le
non
truc.
Mais en fait, oui, parce que là, je vais vous donner une autre raison.
Là, le sommaire, il était carré comme ta chemise, bien repassé.
Je vais vous donner une autre raison de regarder l'émission, parce qu'il parle de ma chemise. Ouais, moi, il porte un pull Pierre Richard Gir.
Ouais. Alors non. Oui. C'est vrai que j'ai un pull, mais moi.
Mais qui est très bien.
Ouais, moi, je trouve pas génial, mais c'est juste que. Non, je ne trouve pas génial. C'est juste que la Coupe du Monde avance et que les machines, elles n'avancent pas au même rythme.
C'est
et
ça.
Donc, je pioche dans le linge que je n'ai plus mis depuis un certain temps.
Ça fait partie de l'organisation journalistique d'une Coupe du Monde. Laver son linge au fur et à mesure et ne pas se laisser dépasser par la pile.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai les mêmes sous-vêtements depuis le début de la compétition, ouais. Maxime. Tu vois. On démarre ?
On démarre.
Allez, allons-y. Est-ce que Didier Deschamps doit changer quelque chose face à l'équipe d'Angleterre? C'est la question qui va nous animer jusqu'à samedi, car évidemment le sélectionneur a trouvé son 11 de départ depuis le Danemark. Ce fut le même en huitième de finale. Maxime, selon toi, est-ce qu'on part avec les mêmes face aux Anglais?
Alors, il y a 4 ans, Didier Deschamps avait gardé la même équipe de, on va dire, du huitième de finale jusqu'à la finale, sauf à un moment en quart de finale parce qu'il avait un suspendu, Blaise Matuidi. L'équipe de France n'a pas de suspendu. Alors il y a des menaces de carton qui s'effaceront d'ailleurs après le quart de finale. Donc si tout le monde évite en gros le carton, notamment Koundé maintenant, ça ira jusqu'au bout. Et Tchouaméni, ça ira jusqu'au bout. Sauf carton rouge évidemment en demi. Moi non, je ne changerai rien parce que encore une fois, il a trouvé son équipe, il a trouvé un équilibre qui parfois paraît un peu précaire, mais n'empêche que je pense qu'il maximise à peu près les forces qu'il a. On a vu la différence avec les remplaçants, et même si la différence n'aurait peut-être pas été aussi grande sans le match face à la Tunisie et le fait de les envoyer à un petit peu, on va dire entre guillemets, leur donner une chance, mais c'était un petit abattoir. Eh bien, je pense qu'il n'y aurait pas de raison. Voilà. Il y a eu suffisamment de changements de joueurs ces derniers mois et de systèmes, de tentatives pour se dire que non, l'équipe de France a quelque chose. Il faut y aller au bout avec ces idées-là. Je pense que ce qu'on a sous les yeux, c'est la meilleure version de l'équipe de France. Et surtout, il ne faut pas s'adapter, il faut imposer le rapport de force. Et imposer le rapport de force, pour moi, c'est garder les mêmes.
Alors, je suis d'accord avec toi, une exception près tout de même, en tout cas, qui mérite réflexion. Les points forts de l'équipe d'Angleterre, on en parlera sans doute dans le deuxième sujet, correspondent aux points faibles de cette équipe de France. Et je pense qu'il faut peut-être bouger un tout petit peu le curseur. Je m'explique. C'est quoi les points forts de cette équipe d'Angleterre? C'est les ailiers, c'est les attaquants de couloir et c'est même les latéraux, dans une certaine mesure. Les points faibles de cette équipe de France se situent dans ces mêmes couloirs et notamment au poste de latéraux et surtout à droite. Est-ce qu'il faut continuer à exposer Koundé alors que Ousmane Dembélé, même s'il s'applique à faire des retours défensifs, on sent que ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas comme ça qu'il est construit. Et est-ce qu'il ne faut pas donner un peu plus d'aide à Jules Koundé d'une façon ou d'une autre? C'est une réflexion, à mon sens, qui au moins doit être menée. Après, est-ce qu'elle aboutit ou pas? Je prends aussi l'exemple d'un Kingsley Coman qui peut-être a un plus gros volume de jeu, même si Coman a franchement déçu face à la Tunisie, et ce qu'il nous a montré face à la Tunisie n'est pas forcément engageant. Mais est-ce que Ousmane Dembélé en a montré suffisamment pour être un titulaire indiscutable jusqu'à la fin de compétition? Là aussi, c'est une question. Je ne suis pas sûr non plus. Il fait une bonne Coupe du Monde, Ousmane Dembélé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire ça. Il ne fait pas une excellente Coupe du Monde. Koundé a été exposé face à la Pologne. Face à la Pologne. Donc imaginez ce que ça va être face à l'Angleterre. Ça a été un point faible dimanche. Je pense que ça le sera face aux Anglais. Il faut réussir à protéger d'une façon ou d'une autre ce point faible de l'équipe de France, alors qu'il n'est pas du cas de Jules Koundé, parce que ça fait des années, ça fait 4 ans, même, voire plus, limite depuis la retraite de Bakary Sagna, qu'on est mal sur ce côté droit. Or, c'est un gros point fort de l'équipe d'Angleterre, donc je pense que ça mérite réflexion.
Alors, si j'élargissais le problème, je pourrais aussi dire la même chose sur le côté gauche. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, c'est il faut se rappeler d'une chose, ça va être c'est comme dans tous les matchs de football, c'est un rapport de force. Donc aussi, la meilleure manière d'être moins en danger, ça va être aussi d'avoir le ballon et de mettre la pression sur les Anglais. Or, si les Anglais ont le ballon, on va se retrouver dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'avec un couloir gauche, le couloir droit anglais face à Mbappé notamment et Théo Hernandez, qui pourrait poser de gros problèmes. Donc c'est vrai que le problème, il est sur les deux côtés. Après, tu as deux solutions. C'est-à-dire que c'est vrai que Dembélé, les garanties défensives sont moins grandes que celles de Coman.
Mais tu n'as pas une solution qui s'impose derrière.
Non, on avait vu Coman en fameux piston, notamment contre la Côte d'Ivoire, où il avait fait un match plutôt acceptable pour dire que c'est un ailier et qu'il était au moins, on va dire, concerné. Dembélé a semblé concerné par le jeu défensif, mais c'est vrai qu'on a l'impression que plus ça avance, moins, on va dire, c'est efficace. Voilà.
Parce que c'est moins naturel.
C'est moins naturel et c'est des qualités. Voilà. Il y a l'autre solution qui s'impose sans doute à l'équipe de France, je ne sais pas s'ils le feront, c'est-à-dire que décider que Griezmann, cette fois, est encore plus un numéro 8, c'est-à-dire que sur les phases défensives, vous l'avez vu, c'était un peu moins vrai face à la Pologne, où parfois c'était Rabiot qui allait jouer, on va dire, derrière Giroud, qui montait un peu plus. C'est de décider que Rabiot, Tchouaméni et Griezmann sont vraiment plus à plat. Vous mettez Griezmann un peu à droite, comme il avait fait face à l'Allemagne en 2021, sur les phases défensives très nombreuses du match, et là, vous, on va dire, vous donnez plus d'influence à votre milieu, et vous sécurisez un peu plus le côté droit. Mais c'est vrai que si réflexion doit y avoir, évidemment, elle se joue là sur les côtés, sachant que de toute façon, la solution c'est pas de changer les latéraux parce que Théo Hernandez, on sait que c'est pas possible. Il n'y a pas le choix. À droite, maintenant, Koundé est devant, Disasi qui est rentré hier. Pavard, a priori, n'est plus tellement dans le mood ni en odeur de sainteté. Donc voilà, s'il y a quelque chose à changer pour solidifier, ça sera plus haut sur le terrain et non pas derrière.
Ou alors passer à 5. Non, je regarde, c'est une blague. C'est une blague. Alors, là, ça semble absolument inimaginable. Mais c'est vrai qu'il faudra contenir d'une façon ou d'une autre la menace offensive anglaise. Je rappelle que jusqu'ici, l'équipe de France n'a affronté que l'Australie, le Danemark, la Tunisie et la Pologne, avec quand même, même si elle a affronté un très grand avant-centre en la personne de Robert Lewandowski, on ne peut pas dire que la menace offensive de ces quatre équipes-là, même si on attendait plus du Danemark, est comparable avec celle des Anglais. C'est incomparable. Donc, il va y avoir une réflexion à mener, parce que déjà, tu as été en difficulté face à ces quatre équipes-là défensivement. Là, le degré, la menace augmente, donc forcément, tu vas être encore plus en difficulté. Il va falloir se pencher sur cette question-là qui me semble centrale.
Et statistiquement, alors évidemment, on peut redire, évidemment, l'équipe face à la Tunisie était loin de celle des titulaires, mais l'équipe de France a pris un but par match quand même. Ce qui est quand même, pour un potentiel futur champion du monde, ce qui peut être beaucoup, voilà, parce qu'on sait que ça part de l'arrière. Alors évidemment, on peut reparler hier du pénalty tirant deux fois de Lewandowski, mais si la Pologne avait marqué avant, c'était pas forcément un scandale, notamment en première période. Donc voilà, c'est vrai que c'est là que ça joue aussi, que l'équipe de France a besoin de se solidifier. Je pense qu'encore une fois, comme on l'a dit hier, ce ne sera jamais une équipe ultra solide, mais il y a sûrement mieux à faire et à maximiser.
De toute façon, dans cette émission, ça fait, j'allais dire des semaines, mais ça fait même des mois, voire même, il faudrait retourner dans les archives, peut-être quelques années, qu'on vous dit, et surtout Maxime, que de toute façon, quand on va arriver face à une grande équipe, quand on va avoir Neymar face à nous, ou là, bah, en l'occurrence, Foden ou Saka ou je ne sais qui, eh ben, ce côté droit, il va vraiment être mis à mal. Et on ne sait pas, que ce soit les solutions bon, Dubois, Coman, Klose, etc. C'était un sparadrap et ça a plutôt bien marché parce qu'on a rarement été mis en difficulté dans ce secteur-là. Là, on va avoir de vrais joueurs, de vraies menaces, des références internationales face à Jules Koundé et face sans doute à Ousmane Dembélé. Donc là, on va savoir, et tout ce qu'on dit depuis des années, c'est-à-dire que la fragilité, elle se situe là, je pense que là, ça risque de nous sauter à la figure.
Justement, l'adversité, c'est l'équipe d'Angleterre, c'est le plus gros test des Bleus, évidemment, dans cette Coupe du Monde. Il y avait eu le Danemark, dont on imaginait plus et qui finalement n'était pas au niveau escompté, mais n'empêche que là, on voit qu'on saute un palier. Il va y avoir fort à faire face à l'Angleterre. Ce serait quand même étonnant que ça passe simplement, même si c'est les Anglais, même si on a bien rigolé pendant des années de ce qu'ils étaient devenus comparé à nous, il se trouve que c'est une équipe d'Angleterre qui a quand même quelque chose, qui n'a pas été régulière depuis le début de la compétition, mais qu'on peut craindre. Et justement, Martin, s'il y avait quelque chose à craindre en priorité pour toi, les Anglais, ce serait quoi?
Bah, c'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire sur quoi fonctionne cette équipe de France depuis le début, qu'est-ce qui l'a fait avancer, qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici. On est tous d'accord, c'est d'abord Kylian Mbappé. Donc, si une équipe arrive à contenir Kylian Mbappé, elle arrivera à contenir l'équipe de France et elle éliminera l'équipe de France. Ça me semble être voilà, d'une logique implacable. Or, cette équipe d'Angleterre possède la kryptonite anti-Mbappé en la personne de Kyle Walker, qui déjà, à la base, est un excellent arrière-droit, latéral-droit, mais qui en plus a des jambes de feu et qui donc rivalise dans ce domaine avec Kylian Mbappé. Ils sont rares à ce poste à rivaliser avec lui. Alors peut-être que Kylian Mbappé en fera sa chose, on l'espère pour l'équipe de France. En attendant, moi, c'est ce qui aujourd'hui m'effraie le plus, car Kylian Mbappé est devenu depuis le début de ce mondial un vrai ailier gauche. C'est-à-dire qu'on a eu un débat pendant très longtemps en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Il s'est très souvent réaxé, il a joué en deuxième attaquant, surtout au PSG, aujourd'hui dans cette équipe de France, et c'est là où il est le meilleur, c'est un vrai ailier gauche, et sa relation d'ailleurs avec Théo Hernandez a fait beaucoup de bien depuis le début de la Coupe du Monde. Or là, on a peut-être l'un des meilleurs défenseurs droits du monde face à lui, peut-être l'un des meilleurs du tournoi aussi, et moi c'est ce qui m'inquiète vraiment pour les Bleus, c'est qu'il arrive à contenir la menace Mbappé et donc que l'équipe de France se retrouve un tout petit peu le bec dans l'eau.
Et vous comprenez mieux pourquoi Mbappé avait besoin d'un joueur comme Giroud, parce que quand vous partez de l'arrière, c'est bien d'avoir ce point d'appui. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi, je vais cibler le secteur offensif anglais, parce que pour faire le lien avec le premier sujet, finalement, bah, les côtés vont se retrouver face à des... Les côtés, même l'axe, parce que l'axe...
Avec Kane, c'est pas mal.
Voilà, Kane, ce qui est formidable, c'est qu'on le dit suffisamment, c'est tellement un avant-centre qui n'a pas besoin de marquer pour être heureux ou pour être bon. Voilà. On disait de Benzema souvent, on le dit toujours, que c'était un 10 dans un corps de 9. Bah, c'est un peu ça avec Kane. Et peut-être même encore plus parce que lui, il a vraiment... Alors, l'amour du but, oui, mais il n'en a pas besoin viscéralement. Et il peut être content de sortir d'un match en ayant bien joué sans avoir marqué ou même avoir fait de stats, on va dire, décisives. Voilà, il est entouré avec Foden, avec Saka. Il y a Rashford sur le banc. Enfin, je veux dire, ils ont une panoplie offensive. Grealish qui est exceptionnelle. Nous, on sait que maintenant que l'équipe est coupée en deux avec un banc qui est vraiment plus loin du compte, eux, c'est moins vrai et ils ont ces ressources pour changer les choses en fin de match. Et là, on va voir, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, les côtés français, ce qu'ils valent face à des vrais joueurs de très, très grande classe mondiale et aussi l'axe, tout simplement, parce que Upamecano, c'est formidable depuis le début. Varane, ça va mieux, il y a eu le petit contre-coup de la Tunisie. Mais n'empêche que là, c'est non pas le test ultime, mais on s'en rapproche.
Pas loin quand même.
Et pas loin quand même. Et autre chose que je voudrais signaler aussi, je pense qu'il faut se méfier aussi, c'est un peu à côté du terrain, c'est les têtes anglaises. C'est-à-dire qu'on a souvent rigolé des Anglais qui arrivent à un tournoi en disant on va le gagner. Puis finalement, football is coming home. Et eux, ils sont rentrés avant la remise des trophées. Or, cette équipe d'Angleterre est demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018, finaliste de l'Euro 2021. Elle n'a pas gagné, vous avez raison. Et elle est encore quart de finaliste de la Coupe du Monde 2022. Elle est quasiment dans son âge d'or moderne, cette équipe d'Angleterre. Et elle aussi, un peu à l'image, on sait ce qui est advenu de la Belgique, et même des Bleus, on va dire, de 2014 à 2018, c'est une équipe qui a grandi, qui a appris et qui a magasiné l'expérience et qui aussi sait faire la part aux jeunes. Et je pense que, paradoxalement, elle a perdu cette finale de l'Euro, mais elle sait cette fois que, oui, ils peuvent gagner. C'est plus une incantation, une pièce jetée en l'air. C'est une équipe qui a confiance. Et je serais très étonné que samedi, ils rentrent sur le terrain en faisant le dos rond face aux Bleus.
Et la dernière équipe à avoir perdu une finale d'Euro, derrière, elle a gagné la Coupe du Monde.
Exactement. Ça, c'est pour la stat.
Et je vais revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me semble là aussi essentiel, surtout si le match venait à se jouer dans les derniers instants, surtout si le match venait à se prolonger après les 90 minutes dans une prolongation irrespirable. Je pense que là, aujourd'hui, j'estime toujours que l'équipe de France a une petite tête d'avance sur l'équipe d'Angleterre. Mais si ça devait se jouer en prolongation ou dans les 20 dernières minutes, le rapport de force pour moi s'équilibrerait, voire pencherait du côté de l'Angleterre, pour ce que tu as dit. Pour la variété du banc anglais, la puissance du banc anglais, et même, j'ai envie de dire, par rapport au banc français, une sorte d'expérience quand même du banc anglais. L'équipe de France n'a plus... Enfin, le banc de l'équipe de France n'a plus marqué un but en compétition internationale depuis France-Albanie, deuxième match de l'Euro 2016, ça fait 6 ans, et celui qui marque, c'est Griezmann, donc qui n'est pas vraiment un remplaçant, mais plutôt un titulaire qui rentre en 20 matchs. Donc, l'équipe de France, le banc de l'équipe de France ne sert plus à rien depuis une bonne décennie en compétition internationale, alors que le banc anglais a déjà fait tourner les matchs sur cette compétition. Donc forcément, sur ce rapport de force-là, la balance, elle penche très nettement du côté de l'Angleterre et l'équipe de France serait plutôt bien inspirée de faire pencher ce 8e bien avant la 70e minute, par exemple.
Ce qui serait marrant, c'est de les voir tous les deux au tir au but parce que les Français ne les bossent pas. Ils restent sur une série perdue, même deux, mais l'autre remonte à bien plus loin. Et les Anglais en ont gagné une en Coupe du Monde. Ils se pensaient s'être débloqués. Finalement, ils en ont perdu en finale de chemin d'Europe. Donc, il y aurait toujours. Ce serait vraiment là, ce serait la pièce en l'air entre les deux équipes.
Exactement. On va terminer. On parle de séance de tir au but. On va parler d'Hugo Lloris. Voilà. Hugo Lloris qui a arrêté un pénalty dimanche. Puis qui en a pris un derrière. Il devait être retiré ce pénalty parce qu'il avait effectivement beaucoup d'avance. Mais les feintes de Lewandowski, je suis d'accord avec toi.
C'est insupportable. C'est insupportable d'être gardien aujourd'hui parce que là, on fait tout.
C'est le coup de gueule de Maxime Dupuy.
Non, mais il a raison de gueuler, Lloris.
T'as une demi-heure d'antenne.
On lui demande, voilà, je peux les tenir. Non, mais on lui demande de ne pas bouger alors que le joueur maintenant a le droit de faire ce qu'il veut sur sa course d'élan. Donc en gros, à un moment, un gardien, il se décide.
Je crois que c'est interdit de marquer un temps d'arrêt.
C'est peinte. Enfin, là, il marque pas vraiment un temps d'arrêt. Il ralentit. Non, mais c'est stupide.
Il fait son petit saut de cabri.
La vérité, c'est
attention.
J'étais en train de regarder tout à l'heure une vidéo de France-Angleterre 2004.
Quand il commence à raconter sa vie, c'est que ça va chercher très
profondément. Il y a Beckham et Zidane qui tirent un pénalty. Il y en a un qui le rate, l'autre qui marque. Mais une bonne course d'élan bien franche et qu'une frappe croisée comme, comme Zidane, voilà. C'est réglé. Voilà.
C'est le foot qu'on aime, c'est le foot à papa, c'est le foot de Maxime Dupuis.
Oui, mais
c'est vrai, une minace dans la lucarne. Faut arrêter de danser avant de tirer un péno.
Un petit plat du pied dans le soupirail, ça marche toujours, voilà, tout simplement. Donc voilà, il aurait mérité de le rater une deuxième fois, Lewandowski, pas tout à fait.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, ce qui nous a agacé, ouais, et on terminera là-dessus, c'est de célébrer un but quand ton équipe perd 3-0 en 8e de finale, que c'est la dernière minute de jeu.
Alors il y avait peut-être une forme de soulagement, mais quand même.
De soulagement de quoi?
D'avoir pas raté un penalty deux fois.
Ouais, bah
mais
okay.
Oui, ça fait pas très très sérieux.
Ah non, surtout quand t'es Robert Lewandowski, à la limite, t'es un joueur du Nicaragua. Mmh. Bon, t'es Robert Lewandowski. Bon, bref. Donc ce troisième sujet, voilà, ça s'appelle une digression. Hugo Lloris signe un début de mondial discret.
Ouais.
Discret. Discret, mais parce qu'aussi, il n'a pas été forcément mis trop à contribution. Les buts qu'il a encaissés sont plutôt... Voilà, il ne peut pas grand-chose. Il a fait une belle parade face à la Pologne, mais il a montré aussi quelques signes de fébrilité. Maxime, que penses-tu du tournoi, du nouveau co-recordman de sélection en équipe de France?
Alors, comme tu l'as dit, il est discret, je dirais qu'il est moyen, simplement. Il y a cet arrêt face à la Pologne qui... peut-être est un tournant dans le match parce qu'on n'y pense plus avec la largesse du score final parce qu'à un moment on mène 3-0. N'empêche qu'à ce moment-là, au cœur d'une période où l'équipe de France commence à perdre pied et on voit que les Polonais finalement ne sont pas résignés à rester sur leur but. Puis il y a cet arrêt à bout portant, le sauvetage de Varane juste derrière. C'est un moment clé et ça ressemble au tournoi de Lloris. C'est-à-dire cet arrêt clé à un moment... qui fait basculer un match, ou du moins qui laisse l'équipe à flot. En 2018, il n'y en avait pas un par match, mais pas loin. Il y a eu ça. En revanche, je l'ai rarement vu aussi fébrile sur le jeu de pied. Le jeu au pied, c'est incroyable, parce qu'on sait
de toute façon, cataclysme.
Qu'il n'est pas bon. Il y a eu cette sortie aussi, j'oublie, cette sortie aérienne où il bute un peu sur Lewandowski, il lâche le ballon, il se rattrape. Mais alors, le jeu au pied, c'est un cataclysme, en effet. Et j'essaie de me dire, c'est un soldat, Lloris, normalement, les émotions, voilà, ça lui coule un peu dessus. Peut-être qu'hier, finalement, 142e sélection, il y a eu quelque chose, il a pris conscience de ce qui lui arrivait. Je pense que lui-même, s'il en parle en conférence de presse avant la France-Angleterre, dira non, c'est pas le cas. Mais j'essaie de m'expliquer ça, je vois pas d'autres explications, mais c'est vrai que son jeu au pied, là, c'est quand même assez inquiétant.
Surtout que finalement, Lloris, c'est quelqu'un, on parle de fiabilité,
ouais.
Ah oui, c'est difficile de faire plus fiable que lui. Moi, je pense que l'équipe de France, et j'en reste persuadé, ne s'en sortira pas dans ce tournoi sans un grand Lloris, mais ce qui est logique, finalement, c'est pas pointer du doigt la défense ou quoi que ce soit, c'est que de toute façon, est-ce qu'il y a eu des champions du monde avec des gardiens moyens? Je suis pas certain. Prenez le tournoi de Lloris en 2018, ah oui, il y a sa grosse erreur en finale, enfin ouais. Bon, le tournoi qu'il fait... c'est monstrueux. Courtois qui amène la Belgique jusqu'en demi, c'est monstrueux. Neuer en 2014, enfin bon, je ne veux pas tous vous les faire, les Casillas, etc. Donc de toute façon, il faudra un grand Lloris. Il faudra un grand Lloris à partir des quarts parce que finalement, qu'il ait été moyen jusqu'ici, ce n'est pas si grave puisque la France a pris des buts mais a été finalement assez peu exposée, a concédé assez peu d'occasions. Moi, je lui reprocherais deux choses. C'est effectivement le jeu au pied, mais je ne vais pas revenir dessus, Maxime l'a très bien dit. Les relances courtes, mi-longues et longues, ça va pas. Et on a vu tout ça, ces trois-là, en l'espace de 90 minutes et même en l'espace de 45 minutes face à la Pologne. C'est-à-dire que quand il essaye de jouer façon Ederson, ça ne va pas du tout. Souvenez-vous, les premières minutes de face à la Pologne où il relance sur Upamecano, catastrophe. Mi-longue sur Koundé à un moment et puis longue quand il cherche ses attaquants, ça va pas. Bon, bref. Mais il y a autre chose. C'est aussi l'autorité qu'il dégage sur les coups de pied arrêtés. Moi, j'ai... voilà, ça reste ça aussi une limite à son jeu dans les airs sur corner et sur coup franc. Face au Danemark, alors face à ce Danemark et même face au Danemark avant, moi je l'ai pas toujours trouvé très souverain sur les coups de pied arrêtés, mais sur la ligne, pour l'instant, on l'a vu face à la Pologne, ça reste ce qu'il est, c'est-à-dire effectivement comme tu disais. Le gardien qui signe l'arrêt signature, qui maintient les Bleus dans le match. Et tant qu'il sera comme ça, on ne pourra rien lui reprocher.
C'est peut-être ce qui fera sa différence au bout du compte avec Barthez. Voilà. Quand il faudra un jour chercher à classer les deux. Alors Barthez, le jeu au pied, évidemment, ça, c'est sans commune mesure avec Lloris. Mais peut-être aussi que ce soit un gardien qui soit vu comme l'arrêt signature. Et, voilà, il a une forme de régularité, mais c'est difficile à définir. Pour le jeu au pied, moi, ce que je ne comprends pas forcément, c'est-à-dire que, comme tu as dit, arrête de jouer court, t'es pas Ederson, tu n'as pas ces qualités-là. Ok, le football moderne veut ça, mais à un moment, je pense qu'il faut des fois balancer. Et d'autant plus balancer qu'il y a quand même un point de fixation.
Szczęsny d'ailleurs, ouais. Face à la France.
Tu as ce point de fixation, ce point d'appui qui s'appelle Olivier Giroud, qui ne donne pas sa part au chien pour aller au duel. Et puis des fois, bah, ça t'aide aussi à sortir et à sortir d'une pression. Donc des fois, enfin, j'ai envie de lui dire, essaye de viser Olivier Giroud. Puis sur un coup de tête, une bonne déviation, il y a 2-3 flèches qui peuvent partir, donc ce ne serait pas plus mal. Et un autre conseil. Enfin, un conseil, non, mais un coup de main, s'il veut. C'est Antoine Griezmann qui a dit qu'il était aussi prêt à tirer les 6 mètres la dernière fois en conférence de presse. Donc, bah, c'est peut-être une solution, voilà aussi. Non, mais blague à part, je pense que... Enfin, je me souviens de sa relance en Suède, oui. Dans l'axe où il y a le but suédois. Enfin, pas que ça arrive en Coupe du Monde, voilà. Et ce serait dommage, parce qu'il n'y aurait rien de plus rageant. On l'aurait vu arriver, donc je pense que là-dessus, bah, autant balancer des grandes ogives des fois, et puis voilà.
Mais en vérité, sa Coupe du Monde, elle démarre samedi, à Hugo Lloris. Elle démarre samedi parce que bah, c'est ce qu'on disait dans le deuxième sujet. Il va y avoir une vraie menace offensive. Il va y avoir Kane. Il va y avoir bah, Rashford, Foden. On ne va pas tous vous les faire. En demi, que ce soit l'Espagne, le Portugal, sans doute. En finale, voilà. C'est là où on va l'attendre. Quand, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que son tournoi... alors, il fait un bon premier tour, mais son tournoi démarre en quart aussi en 2018 où il sort les parades face à l'Uruguay. En fait, ces deux matchs références, c'est quart et demi. Son tournoi, il est monstrueux grâce à ses prestations en quart et en demi.
Il y a un arrêt face à l'Australie. Mais oui, non, mais tu as raison. Là, c'est...
Au Pérou aussi, où il fait un bel arrêt en première période. Mais en fait, son tournoi, voilà, son tournoi est sublimé à partir des quarts. Donc, ne nous inquiétons pas pour Hugo Lloris. Il a 142 sélections. S'il n'était pas fiable, je pense qu'on s'en serait rendu compte. Et Didier Deschamps avec nous. Voilà, faisons confiance au capitaine. Et puis, bah, rendez-vous bientôt, Maxime. Demain, peut-être.
Sans doute demain, oui.
Sans doute demain, ou peut-être jeudi, mercredi. Il n'y aura pas de FC Stream Team, car on laisse place à Cyril Morin pour un tour du monde et un bilan des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Est-ce que Maxime aura une chemise dans le prochain FC Stream Team? Ce n'est pas sûr.
C'est pas une certitude demain.
C'est pas une certitude, voilà.
Deux chemises.
Mais on espère, en tout cas, que tu seras présentable.
Oui, présentable. Je serai propre, en tout cas.
Alors, s'il y a bien une chose dont je ne doute pas, c'est de ton hygiène, Maxime, qui est irréprochable. Mais... Je fais cette stream team à tes côtés depuis bientôt 6 ans et je n'ai absolument rien à te reprocher. La barbe, elle est coupée.
De toute façon, même si je la laisse pousser...
Non, mais je veux dire, c'est propre.
Ah oui, oui, oui.
Bah, ouais, non, mais t'es carré, Maxime.
On essaye de se respecter encore.
Oui, mais tu sais, des fois, là, j'arrive en... On s'installe dans un confort, ça fait 6 ans finalement. Mais
c'est vrai.
Non, il reste nickel. Et il pousse, il me challenge en fait. Il me challenge.
Dans la nickelitude.
Exactement. Merci Sébastien en manette. Merci Quentin au visuel. Merci à vous, chers auditeurs.
Chères auditrices.
Et auditrices, évidemment. Et bah, à bientôt.
À bientôt. Salut.
Ciao.